prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Sixième partie, la grande tribulation.
Continuer notre progression dans le livre de l'Apocalypse. Alors nous sommes familiarisés maintenant avec le livre de l'Apocalypse. Hein. On arrive déjà à la sixième étude, c'est bien. Hein. Et on compte surtout sur la grâce du Seigneur pour qu'il nous éclaire dans la compréhension de ce livre quand même qui reste mystérieux. Mais le Seigneur est fidèle pour nous donner de nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre et nous édifier dans notre foi. Alors on va repartir et on va commenter le chapitre 7 maintenant. Il s'agit d'un sujet tout à fait particulier sur deux niveaux. On va voir ce qui se passe sur la terre et puis on va aller faire un petit tour au ciel. Hein? Voilà, tout simplement. Je dirais en préambule que après la vision des catastrophes à venir annoncées dans l'ouverture des six premiers sceaux, vous savez, c'est hein, la fois précédente, on avait parlé de cette ouverture dont Jésus est le seul digne de briser, et c'était tout simplement l'annonce de ce qui va survenir sur la terre. Et nous en arrivons, à travers ce chapitre 7, à l'histoire des 144 000, c'est très énigmatique, 144 000 personnages qui sont marqués d'un sceau de Dieu, et qui sont sur la terre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur la terre et de l'immense foule qui est réunie dans le ciel. C'est aussi toujours au chapitre 7, et où il nous est dit que cette foule immense a traversé victorieusement la grande tribulation. Parce qu'il va tout simplement être question de la grande tribulation. Nous y reviendrons plus tard, hein, mais on va le voir ensemble. Si nous reprenons le commentaire verset par verset, eh bien nous lisons ceci dans le premier verset du chapitre 7, tout simplement. Après cela, c'est Jean l'apôtre qui dit « Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Ce qui est facile à comprendre, c'est que Jean, qui a été choisi par Dieu pour avoir la révélation de toutes ces visions, de toute cette vision apocalyptique, aperçoit, voit quatre anges qui sont situés aux quatre points cardinaux du monde. Et ces mêmes anges retiennent les quatre vents pour les empêcher de souffler. C'est compréhensible. Jusque-là, pas de problème. On s'aperçoit que il y a ce que je viens de citer, ces anges qui retiennent. Normalement, ils devraient agir, mais Dieu les retient. Parce que les malheurs du jugement, les malheurs et les fléaux qui vont survenir dans les chapitres suivants, que nous étudierons ultérieurement, sont momentanément suspendus dans l'attente d'un cinquième ange. Et c'est le verset 2. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et là, c'est quand même important. Nous voyons que ce dernier ange qui apparaît, ce cinquième, vient du soleil levant. Le soleil levant, c'est l'Orient. Peut-être pouvons-nous faire un rapprochement avec Israël. Ça dépend dans quelle situation nous nous trouvons, dans quelle position. Mais il y aura une signification tout à l'heure. Nous voyons que cet ange tient dans sa main, dispose en tous les cas, le sceau du Dieu vivant. c'est bien écrit de cette manière, et par ce qu'il dit aux quatre anges qui se préparent à exécuter la volonté de Dieu dans des jugements et des fléaux, lui les contient donc provisoirement, il contient provisoirement l'œuvre destructrice décrétée jusqu'au terme de l'événement suivant. Et l'événement dont il est question dans ce verset 2, c'est apposé sur le front des serviteurs de Dieu la marque du sceau de Dieu. Voilà. Alors, on va essayer d'expliquer un peu tout ça parce que c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire pour notre compréhension, c'est qu'il s'agit d'un sceau de protection. Un sceau de protection qui vise à préserver ceux qui en sont les destinataires. Et nous verrons tout à l'heure qui sont-ils et le nombre. Donc, les préserver des fléaux qui vont déferler sur le monde. Ce que nous avons entrevu la fois précédente à travers l'ouverture des 6 premiers sceaux. Il faut remettre tout cela dans l'ordre. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans le déroulement maintenant. Que ce que nous avons vu dans le chapitre 6 va maintenant s'accomplir. Pour l'instant, c'est momentanément arrêté parce que c'est comme si les choses étaient en suspension. Il y a encore des choses à faire. Et une chose, entre autres, importante, c'est que l'ange que Dieu délègue, c'est d'apposer sur le front tous ceux qui sont reconnus comme serviteurs de Dieu et ils vont porter donc une marque. Il y en a un autre plus tard qui mettra une marque sur le monde entier. Vous le savez, vous le connaissez. On en parlera naturellement. Et on se souvient, et ça nous ramène aussi dans l'histoire biblique, on se souvient, avant les grands fléaux qui vont venir sur l'Égypte, on se souvient des maisons des Hébreux dans la nuit de Pâques. Et ils ont été marqués aussi. Dieu avait dit, bien, vous prendrez un agneau et vous le mettrez sur les linteaux des portes et l'ange exterminateur ne vous touchera pas. On sait que ça a été certainement quelque chose d'épouvantable pour toute l'Égypte, pour l'empire d'Égypte, mais les serviteurs de Dieu, le peuple élu de Dieu, les Hébreux, ont été complètement épargnés. Et Pâques, ça veut dire épargner. Passer outre. Et à la fin des temps, nous retrouvons à peu près le même sens, si on peut le dire. Et vous vous souvenez du cordon écarlate qui a permis à Rahab, dans la ville de Jéricho, de passer outre aussi. Et je pourrais vous en donner, je vais m'arrêter là, mais je peux vous donner toutes sortes d'explications ou toutes sortes de preuves bibliques où Dieu appose un sceau, met une marque de protection sur ceux qui sont tout simplement dans l'espérance de sa grâce. En d'autres termes, ce sceau est comme un abri. Vous verrez qu'un peu plus loin, il est question d'une tente. C'est un abri. On pourrait dire que ça va être l'arche dans la tempête, oui, comme il y a déjà eu une arche pour Noé et sa famille. Une tempête qui vient. Mais le sceau par excellence qui est le nôtre, celui que nous portons non pas sur notre front, mais dans notre cœur, c'est celui de Christ qui a pris l'iniquité pour tous ceux qui croient en lui. Ça, c'est aussi une réalité. Tout simplement pour rappeler ces faits que Dieu, marque ce qui lui appartient et que nous n'avons rien à craindre. La question qui survient maintenant, qui se pose, qui sont ces serviteurs de Dieu qui vont recevoir ce sceau? Et que veut dire ce nombre? Quel est le sens que nous pouvons donner à ce nombre que nous allons découvrir? Et nous continuons tout simplement à lire. Il est dit ceci, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Rubens, 12 000, etc., etc., etc. » Et ça va jusqu'au verset 8. Je ne vais pas le relire. Vous connaissez naturellement ce que ça signifie. La première question que nous pouvons nous poser, des Juifs. Des Juifs. Je n'ai pas dit que c'était des Juifs, mais je dis des Juifs. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi je formule les choses comme ça. Tout à l'heure, il était question du soleil levant. Et naturellement, on sait que dans peut-être la position qui peut être définie, c'est peut-être aussi la direction finalement d'Israël. Tout ça, c'est en question. Mais nous allons revenir au sceau divin de mise à l'écart protectionniste. Oui, c'est une mise à l'écart quelque part. Le sceau divin a posé sur leur front, je précise, le front, c'est la tête. La tête, c'est l'intelligence, c'est cette faculté que Dieu nous a donnée, naturellement. Et s'il y a une intelligence au-dessus de toutes les intelligences, Dieu le dit, dans le livre du prophète Jérémie, nous allons aller chercher le texte, la véritable intelligence, c'est de connaître Dieu. C'est qu'il te connaisse, dira Jésus. Voilà, qu'il te connaisse moi, qu'il te connaisse toi, parce que en cela, eh bien, c'est la vie éternelle. Écoutons ce que nous dit Jérémie, par exemple, par rapport à cela, parce que c'est intéressant. Je cite simplement la référence, c'est Jérémie 9, verset 24, où il est dit ceci, verset 23 par exemple. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. » Donc, on a compris, le front, ça a un sens. Il y a là le siège de l'intelligence, de la réflexion. Et nous voyons que ce sceau apposé garantit qu'ils échapperont à la grande tribulation. Ils sont sur la terre. S'ils étaient dans le ciel, ils n'ont pas besoin de protection, parce que dans le ciel, on n'a plus besoin de protection. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mais ils sont sur la terre. Ce qui justifie le besoin de secours. C'est pourquoi Dieu va les marquer. Dieu va leur mettre un sceau de protection. On l'a appelé le sceau du Dieu vivant, parce qu'il y a un triple sens à cela. Premièrement, ce sceau, il les protège contre toute violation. Entendez par là, contre toute violence. C'est aussi un signe de propriété et d'appartenance que représente ce sceau. C'est enfin un gage d'authenticité. Ils sont reconnus vrais. Ainsi, d'en conclure, que celui qui porte ce sceau-là, Dieu le défend, il ne craint aucun mal dans la tourmente qui va venir sur tous les habitants du monde, sur tous les habitants de la terre. Il y a une triple valeur également. Le Père les a reconnus fils par l'alliance en Jésus-Christ. Le Fils les a scellés de sa rédemption à la croix, et le Saint-Esprit les a scellés solennellement en leur attestant dans leur cœur cette parole qui surgit de l'Épître aux Romains que Paul nous laisse, et on va tout simplement voir ce que Paul nous dit par rapport à cela. Dans Romains chapitre 8, verset 14 et verset 16, il est dit ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu d'un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, donc il n'y a plus la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et ensuite, voilà, l'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, triple valeur. Et c'est l'Esprit qui atteste au fond de nous-mêmes que nous sommes ses enfants par adoption. Voilà. Il y a ce sens qui découle naturellement de ces paroles. Maintenant, nous sommes confrontés. Quelle est l'identité et le nombre de ces 144 000, je le dis maintenant puisque c'est le nombre, 144 000, leur identité, est-ce qu'elle nous est dévoilée? Et ça, ça pose question. Beaucoup de commentateurs ont dit beaucoup de choses sur cela. C'est un chiffre, écoutez bien, parce que ça c'est important. Je voudrais le dire parce qu'il y a eu des fausses doctrines de données et dans certains milieux qui ne sont pas des milieux chrétiens ou apparentés chrétiens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Mais toujours est-il qu'on a dit beaucoup de choses, et ça troublait naturellement. C'est ainsi un chiffre symbolique. Retenez bien ça. Parce que s'il n'y avait que 144 000 personnes qui seraient sauvées, je peux vous dire, à travers tous les siècles, ça poserait quand même de graves questions. D'ailleurs, de toute façon, ça ne tient pas la route d'une prétention à une doctrine de cette restriction dans le chiffre, parce qu'après, il nous est dit qu'il y a une grande foule. Donc il y aurait des gens qui seraient sauvés, et des gens qui seraient... Est-ce qu'ils seraient sauvés aussi, les autres? Donc quand même... Je remets en place et vous savez de qui je veux parler. Bon, c'est un chiffre symbolique. Alors, on va faire un peu de calcul là maintenant, si vous voulez. 3, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, dans le triple sens ou triple valeur, 3 est le chiffre de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 4 est celui de l'homme et du monde. Je sais que vous allez me dire 6, c'est le chiffre de l'homme. D'accord. Mais 4 est aussi attesté comme le chiffre de l'humanité, du monde. 4 fois 3, ça fait 12. Vous avez vos calculettes. Hein. 4 fois 3, ça fait 12. 12, dans la Bible, est toujours lié au témoignage pour preuve. 12 tribus d'Israël. 12 apôtres, Ancien Testament, Israël, Nouveau Testament, l'Église, 12, et leur vocation aux uns et aux autres, dans l'histoire, a été d'être le témoignage de Dieu. Israël, peuple élu, témoignage auprès de toutes les nations du monde, en son temps, en son époque, et aujourd'hui, 12 disciples, avec naturellement toute la multiplication qu'il peut y avoir depuis 2000 ans, témoignage de Dieu, témoignage de Jésus-Christ et de l'Évangile. Donc, ce sont des chiffres, mais qui corroborent les uns avec les autres. Il y a un témoignage de la loi pour Israël, donc les 12 tribus. Témoignage de la grâce à travers le ministère des apôtres et avec toutes les répercussions qu'il y a eu à travers le temps, auprès des nations de la terre. Ouais, ça, c'est le choix de Dieu, c'est le plan de Dieu. 12 est le témoignage, tout simplement, lié au témoignage que Dieu a donné. Il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Et 12 fois 12, ça fait tout simplement 144 et son multiple par 1000, 144 000. Alors, bon, c'est un peu pour essayer de mettre les choses en forme, parce que ce n'est pas forcément très simple. On peut interpréter ce chiffre dans son sens spirituel. Dans son sens spirituel que j'appellerais tout simplement, que je nommerais commun, où il s'agirait, comprenez bien, où il s'agirait de racheter, dont la vie est celle de la foi, et mon juste vivra par la foi, que ce soit d'un côté ou d'un autre, c'est toujours été le principe, de toute manière, ça a toujours été le principe. Donc, dont la vie s'est caractérisée par la foi et s'est caractérisée également par une expression débordante de communion ou de relation avec le Dieu vivant. Et quand on est en relation avec le Dieu vivant, c'est que nous sommes nous-mêmes vivants. Oui. Il ne s'agit pas d'idole. Il s'agit du Dieu vivant. Donc, tous ces hommes, quelle que soit l'alliance, d'une manière ou d'une autre, ont eu cette caractéristique, c'était la foi, et véritablement, cette dimension de relation, cette dimension de communion avec le Dieu vivant, parce qu'ils ont reçu la vie de lui. Et en écho, ça fait tout simplement dire à Jésus, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai de l'eau vive, et ses sources jailliront jusque dans la vie éternelle. » Donc ça, c'est une façon d'expliquer le texte, mais elle est conforme avec ce que Jésus avait déjà annoncé, avec ce qui était déjà pressenti, aspiré profondément par tous ces hommes qui ont été bien avant nous et dans tous les temps, dans tous les temps. Je voudrais faire un rappel, parce que c'est important dans la compréhension, parce que la suite, ça va nous amener dans une autre dimension. Ces 144 000 sont sur la terre. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une marque de protection. Et je tiens à le rappeler, s'ils étaient dans le ciel, qu'est-ce qui peut nous menacer quand on est dans le ciel, dans la présence de Dieu Le salut n'est plus en cause, il est réalisé. Et ils sont sur la terre, c'est pour ça qu'il y a une marque particulière. Et c'est une cohorte de vainqueurs. Ouais. Et cette cohorte de vainqueurs, je vais vous faire un rappel par rapport à ce que nous avons vu la semaine dernière, la fois dernière, mais peut-être que vous n'en souvenez pas, ça se situerait, cette période, ça se situerait entre le 4e et le 5e sceau, vous l'avez vu, c'est-à-dire juste avant la vision qui fait suite, du verset dans notre texte, chapitre 10, du verset 9, jusqu'à la fin du paragraphe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous est dit entre les deux visions? Il nous est dit à un moment donné au chapitre 6, alors, si l'on reprend les choses, je vous ai simplement, entre j'ouvris le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, je regardais, et parut un cheval de couleur verdâtre, il se nommait la mort. Bon, voilà. Et ensuite, au verset 9, c'est-à-dire le verset qui suit, entre les deux là où il y a tout simplement les références et les parabelles, c'est là où se situerait justement l'événement des 144 000. Parce qu'après, il est question, Et il ouvrit le cinquième sceau, et je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Là, on est dans le ciel. Avant, on est sur la terre, et là, on est dans le ciel. Et ça se situe entre les deux. C'est une situation tout simplement, pour donner une petite indication, finalement, pour cadrer un petit peu la compréhension de notre texte, hein, l'analyse de notre texte. Alors, des Juifs et des païens convertis, ces 144 000. On peut l'interpréter de toutes sortes de façons. Et ce soir, je ne veux pas m'arrêter en disant « c'est ceci ou c'est cela ». Je pourrais vous le dire, quand on se retrouvera de l'autre côté, je pourrais vous le dire avec certitude. Hein? Mais je vous demanderai d'attendre. Parce que, pour l'instant, voilà, les uns et les autres, hein, on va attendre un petit peu. C'est pour ça que moi, je ne veux pas me cadrer dans... Parce que, vous savez, en faisant cette étude, j'en ai compulsé des livres. Hein, parce que je voulais le savoir un petit peu. Et il y a beaucoup de choses, hein, c'est vrai, qui sont tout à fait probantes, tout à fait... Il faut que la Bible se réponde par elle-même, sans extrapolation et sans spéculation. Aborder l'Évangile, c'est comme ça que ça doit être. Hein. Et pourtant, il y en a eu des interprétations. Et quelquefois, qui vous emmènent dans des choses qui ne sont même plus en rapport avec les textes bibliques. Alors, les Juifs, des païens convertis. Mais pour Dieu, moi je voudrais vous une chose qui peut-être va nous aider à comprendre et peut-être à conclure ce sujet difficile. Moi je voudrais vous dire, juifs ou non-juifs, païens convertis, ils s'appellent tous Israël de Dieu. Aujourd'hui nous sommes l'Israël de Dieu. Dans notre génération, dans notre ère chrétienne. Avant c'était l'Israël aussi de Dieu. Pour véritablement, eh bien ce que l'Ancien Testament, c'est l'Israël de Dieu l'élu. Ils ont été élus, nous sommes aussi des élus. Nous avons été des appelés. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Mais pour ceux qui sont élus, en tous les cas, on sait à qui nous appartenons. Et nous sommes élus sur les bases d'une chose. Comme l'ancien Israël, comme l'Église, la nouvelle Israël aujourd'hui, c'est que nous sommes élus sur les bases de la foi. C'est tout. Sur les bases de la foi. C'est l'Église du Dieu vivant, avons-nous lu. C'est l'Église militante, c'est l'épouse victorieuse. Maintenant, nous allons passer à la deuxième vision, dans la précédente, celle que je viens de conclure. Jean ne fait qu'entendre le nombre des 144 000, mais ils sont encore sur la terre, naturellement. Il ne fait qu'entendre le nombre. Ici, Jean voit, et dans notre texte, il est dit « Je regardais ». Au verset 9, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. » Il s'agit de martyrs de la grande tribulation. On n'est pas sur le même régime, on n'est pas sur la même planète, là. Hein. C'est le ciel. Ils sont dans le ciel. On peut parler de l'Église triomphante. Tout à l'heure, c'était l'Église militante, une Église combattante, une Église souffrante, une Église qui mène le combat. C'est pourquoi Dieu leur a apposé... Finalement, eh bien, cette marque, ce sceau de protection. Mais là, c'est tout à fait différent. Et quand on relit, et ça commence comme ça, après cela, donc, on monte. Et on va voir ce qui se passe dans le ciel. Il y a une transition. Alors, on relit. « Après cela, je regardais, dit l'apôtre Jean, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. » Cette fois, vous le constatez vous-même, le nombre n'est plus limité. Il est même incalculable. Comme le dit souvent l'Ancien Testament, des myriades et des myriades. Hein? Incalculable. Pour cela, la tribulation est passée. Ils sont dans le ciel. Et selon toute vraisemblance, ils ont dû subir des épreuves inouïes et le martyr même. Et se sont endormis dans la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes appelés, à nous endormir dans la foi en Jésus-Christ, martyr ou non. Mais on va le savoir d'ici quelques instants parce qu'une question va être posée. D'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? Ils se sont... donc endormi en Jésus-Christ. Cette grande foule est le résultat de tous les temps et en tout lieu de vrais disciples de Christ et ils forment une multitude qu'on ne peut compter même si, ici-bas, l'Église nous paraît faible et insignifiante. On se dit devant les quelques 6 milliards d'êtres humains qu'il y a aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'Église ? Oui, mais quand vous faites le compte, au-delà de ce que nous pouvons, de ce que nous ne voyons pas, au-delà de notre région, nation, et partout le monde, dans tous les siècles, depuis que Jésus est venu, ça fait quand même quelque chose, là. Ça change certainement les donnes, hein, probablement. Alors, quelquefois, nous avons ce sentiment de dire « mais l'Église, c'est rien ». Enfin, c'est rien, en nombre, je veux dire. Elle est petite, qu'est-ce que nous pouvons représenter dans une ville comme la nôtre ? Mais rien du tout. Mais ce que nous ne voyons pas, Dieu le voit, et Dieu sait. Dieu sait. Et il nous est dit qu'elle se tient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robe blanche. Je rappelle, et nous l'avions vu précédemment, ces robes blanches représentent, c'est le symbole, c'est l'emblème de la justice et de la sainteté parfaite. Et il nous est dit qu'ils tiennent des palmes à la main. C'est l'insigne de victoire et du salut. Écoutez, on fera référence, si vous voulez, simplement à quelque chose que nous connaissons bien, si l'on retourne dans l'Évangile. Dans celui de Matthieu, au chapitre 21, permets-moi de rappeler cet événement qui a eu lieu. 21, versets 8 et 9. Écoutez, ça semble bizarre, mais c'est comme ça pourtant. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, hier, dans l'Évangile, rapporté dans cet Évangile et dans les autres, c'est la joie à Jérusalem. Mais maintenant, dans ce que nous sommes en train d'étudier, maintenant, c'est la félicité éternelle. Et le verset 11 nous le dit d'une manière tout à fait particulière, le verset 11 nous dit ceci, tout simplement, « Et tous les anges tenaient autour du trône, les vieillards et les quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu. » Ouais, la félicité éternelle. Le ciel et tous ceux qui l'habitent à ce moment-là exultent d'allégresse, d'adoration, poussent des cris de joie et de triomphe et d'humilité qui attribuent le salut tout entier à Dieu et à l'agneau. Personne ne peut revendiquer aucun mérite. C'est Dieu et l'agneau qui reçoivent finalement l'hommage tout simplement de toute cette foule immense en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Voilà ce qui se passe. Et nous nous apercevons d'une chose, c'est que tout cet univers de louange et d'adoration tous déclinent l'un après l'autre ces attributs spécifiquement divins. Eulogia, ça veut dire tout simplement la louange, l'éloge, bénir. Voilà, ça revient à Dieu. Il y a également doxa ou doxo, c'est-à-dire une formule de louange ou d'adoration à la gloire et à la grandeur divine. Il y a également sophia, sagesse. On l'a lu, hein, je suis en train de faire la traduction tout simplement. La sagesse est révélée par son plan de salut et son accomplissement, parce que c'est Dieu qui a mis ça en place, ce n'est pas les hommes. Il y a Eucharistia, qui veut dire action de grâce, qui est l'expression de cette action de grâce et d'honneur rendu à Dieu. Et il y a également dynamis, dynamis, puissance et force pour son œuvre de salut. Et ça, c'est ce qu'il est proclamé dans le ciel, dans l'adoration. Et le ciel exulte à ce moment-là. On l'a lu, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu. Voilà ce qui nous est tout simplement démontré. Le verset 13 nous dit ceci. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où viennent-ils ? » Un des anciens, et ça nous rapporte à la quatrième étude que nous avons faite sur l'Apocalypse autour du trône, un des anciens qui est représentant de l'Église sauvée interpelle l'apôtre Jean et il pose cette question pour stimuler peut-être Jean, pour l'amener peut-être là à prendre conscience de ce qui se passe. Et la réponse est donnée tout simplement dans la suite. Et je dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Venir de la grande tribulation, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut avoir comme compréhension? Et on peut le comprendre ainsi, sur deux plans, sur deux niveaux particuliers. Une première pensée, ce sont les malheurs de la fin des temps, comme Jésus l'a prédit dans Matthieu, chapitre 24, verset 21. On peut simplement citer le verset, parce que je crois que cela peut être éventuellement une indication pour nous. 24, verset 21, il nous est dit, alors, ça c'est la grande tribulation, c'est Jésus qui le dit, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si ces choses n'étaient pas abrégées, personne ne serait sauvé. On comprend que là, Jésus parle de quelque chose de très, très important et ça se présente dans l'Apocalypse comme la persécution généralisée, mondiale, antichristique, c'est-à-dire entre antichrétienne, fomentée, armée par l'antéchrist. Cependant, il y a un deuxième niveau de compréhension de la grande tribulation. On peut comprendre également la chose de cette manière. C'est l'opposition permanente du monde, depuis qu'il y a des croyants sur la terre. Toute la somme de souffrance et de misère en tout genre, qui assaillent ici-bas et font jusqu'à divers degrés la vie humaine et en particulier la vie chrétienne, ça peut être considéré comme la grande tribulation. Chacun d'entre nous, nous sommes déjà dans la grande tribulation par notre vie de chrétien. Ça sera la grande tribulation dans les derniers temps, Jésus nous en parle, d'une manière tout à fait particulière. On la comprend souvent comme ça. Mais croyez bien qu'être chrétien, garder la foi, les problèmes que nous suscite notre coexistence dans ce monde, à travers les tentations que nous avons fomentées par l'adversaire, à travers tout ce que nous pouvons connaître d'une manière ou d'une autre, y compris même dans nos familles, dans nos couples, dans toutes les vicissitudes, vous allez me dire, le monde entier le vit, ça aussi, c'est vrai, mais nous aussi on le vit. Et on le vit peut-être d'une manière beaucoup plus marquée, c'est que devant toutes ces sollicitations du mal et de toutes sortes de choses, de tentations, nous nous disons non. Donc ça renforce finalement cette tribulation. Tourment de conscience, parce que nous ne voulons pas nous prêter à ceci, nous ne voulons pas nous prêter à cela. Et je crois qu'elle est sur deux plans, la grande tribulation. Elle est celle qui est à venir, ça c'est sûr, la dernière. Et puis elle est, pour tous les chrétiens, quand on voit l'histoire de l'Église, dans les temps les plus difficiles, les temps cruciaux, des premières persécutions, où tout simplement la foi des huguenots, la foi de ceux qui ont découvert en Jésus-Christ le salut à travers tous les temps, maintenant encore dans certains pays, sur certaines latitudes de notre monde, c'est aussi la grande tribulation. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes libres, mais il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont persécutés, il y en a qui sont battus, il y en a qui sont privés de travail, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui sont séparés ou spoliés de leurs biens, de leur famille et toutes sortes de choses. C'est la grande tribulation. Et nous passons par là. Alors, on ne verra peut-être pas la dernière, mais on est déjà dedans, en quelque sorte. On peut le considérer comme ça. Et il nous est dit qu'ils ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. La victoire de toute cette somme de souffrance et de misère et de malheur, eh bien la victoire, c'est parce que nous croyons aux vertus expiatoires de Jésus-Christ à la croix, dans son sang. C'est dans sa mort que nous vivons. C'est dans sa mort, et sa mort nous donne la vie. Et au lieu de nous anéantir et de nous faire disparaître, suivre Jésus, croire en Jésus, saisir finalement eh bien, cette vie nouvelle, tout simplement eh bien, nous régénère, nous donne la vie. Alors, tous ces pécheurs dont ils ont lavé et blanchi leur robe, tous ces pécheurs graciés par la foi dans l'expiation, donc comme je le disais, sont à présent des justes et des saints. Non pas par eux-mêmes, mais en raison de leur foi en Jésus. Et c'est le miracle inimaginable parce qu'ils sortent de la fournaise ardente selon 1 Pierre, chapitre 4 et verset 12. Et nous avons besoin de nous en pénétrer parce que finalement, nous sommes bien dedans et nous avons besoin de prendre courage. Écoutez, il est dit ceci, c'est Pierre qui exhorte. « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Vous voyez, il y a les deux plans. Ouais. Alors le chrétien d'hier comme d'aujourd'hui a besoin de prendre courage, parce que nous sommes dans la fournaise. Et il est bien précisé par cet adjectif, elle est ardente. Ouais. Et nous devons aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas forcément très simple. Ouais. Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque Christ apparaîtra. Ça, c'est notre espérance, naturellement. Je reviens au verset 15 de notre texte, où nous avons cette précision. Il est dit ceci, tout simplement, « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Je vous ai dit tout à l'heure, le sceau c'était un abri. On parle de tente là maintenant, tout simplement. Dans le ciel, ceux qui sont d'un chiffre incalculable, ceux qui sont sortis de la grande tribulation, ceux qui ont passé par la grande tribulation, de la manière dont nous l'avons expliqué, ce sont des rachetés qui maintenant jouissent dans le ciel de la présence de Dieu. De sa présence, ils sont dans cette position privilégiée devant le trône, de le servir jour et nuit, et une tente est sur eux. Ils sont recouverts, ils sont couverts. C'est la réalisation de l'antique promesse qui nous est donnée dans Lévitique, verset 26 et au chapitre 26 et au verset 11, où nous avons tout simplement ce texte où Dieu, déjà dans les anciens temps, promettait une grâce particulière pour ceux qui espéraient en lui. Je vous ai dit donc, chapitre 26, verset 11, et il est dit tout simplement, « J'établirai ma demeure au milieu d'eux. » Oui, il était question d'une tente. Hein. « Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Voilà. Ça sera la finalité, ça sera la réalisation, ça sera le tout, tout simplement. Et simplement, pour terminer ce chapitre 7, parce que nous allons parler de le septième sceau qui n'a pas été ouvert la fois précédente, et d'ailleurs, dans la chronologie, vous verrez qu'il va arriver après. On a parlé des six premiers, le septième va arriver. Il est dit, tout simplement, le verset 16, dans ce que j'ai devant les yeux, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. » Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Ça sera, dans cette dimension céleste, la sérénité parfaite après les affres et les tourments de la terre. Rien ne leur fera jamais plus mal. Le mal, ça sera quelque chose qui n'existera plus. Ouais, le mal, nous le connaissons. Nous en connaissons l'aiguillon, le tourment, mais il n'existera plus. Et il est précisé à un moment donné dans notre passage que l'agneau de leur salut, celui qui ôte le péché du monde, l'agneau de leur salut est à toujours leur berger, le bon berger, et il les paîtra. Et ça nous ramène au psaume 23, quand David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. » Et il les conduira, selon la parole qui nous est donnée, on va le relire, « Il les conduira aux sources des eaux de la vie. » Ça, c'est le verset 17, « Car l'agneau qui est au milieu d'eux, qui est au milieu du trône, les pétra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » C'est le symbole glorieux du salut et de la vie éternelle. Alors, Dieu, à ce moment-là, après avoir entendu les prières, les supplications, avoir recueilli les larmes, les chagrins, de toute cette humanité, et en particulier de ceux qui ont mis leur espérance en lui, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, de sorte que dans la félicité, c'est le mot qui convient là, c'est le mot félicité tout simplement, il ne restera qu'une joie et un bonheur sans mélange de communion dans la plus douce et la plus abondante des vies. Jésus en parle dans Le Bon Berger. Je leur donne la vie en abondance. Et là nous y sommes. Et la preuve est donnée tout simplement, avant de conclure ce chapitre celui que nous avons ouvert, le chapitre 7. Dans Apocalypse, on en reparlera en son temps, 21 et verset 3, tout simplement à 4, où il est dit ceci: « J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Quand il était question de tente, hein, la tente du tabernacle, la tente d'assignation, le tabernacle de Dieu avec les hommes, « il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça nous renvoie à Lévitique. « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà l'explication du chapitre 7. Et très rapidement, on va conclure avec ce que la Bible chronologiquement nous amène, c'est-à-dire la septième trompette. Le septième sceau, pardon, excusez-moi, je rectifie. Le septième sceau. Et on va lire tout simplement ce qui nous est dit. Eh bien, dans cette suite, alors, chapitre 8, que je retrouve tout simplement le texte, et nous reprenons. « Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. » Et ça s'arrête là. Les sept sceaux ont été ouverts à partir de ce moment-là. Nous voyons que Dieu donne et continue à ouvrir le ciel à ce moment-là. Et l'apôtre Jean va être spectateur, auditeur en même temps, de l'exaucement pour la délivrance de qui vient maintenant. La délivrance va arriver. Mais elle va arriver à travers des jugements. Et l'image est donnée à travers les sept trompettes et les sept coupes qui vont être déversées. On le verra naturellement la prochaine fois. Mais d'abord, il y a un silence. Il nous est dit un quart d'heure. La louange glorieuse que nous avons constatée là, il y a un instant, et qui avait commencé dans le chapitre 5, va cesser brutalement, et le souffle est retenu à ce moment-là. Un silence dans le ciel, préludant quelque chose d'extrêmement important, quelque chose de grandement solennel. Et voici cet ange qui s'approche, il tient un encensoir d'or, et il y a du parfum dans cet encensoir, qui est associé avec les prières de l'humanité, convertie à Dieu devant le trône. Et Dieu entend ses prières. Et qu'est-ce qu'il y a dans ses prières? Il y a des cris. « Seigneur, reviens bientôt. Seigneur, nous soupirons après le rétablissement de toutes choses. Seigneur, tu vois le sang, tu vois tout ce qui se passe sur la terre. » Ça, c'est la prière du peuple de Dieu. C'est ce que nous avons fait monter ce soir, entre autres. Et c'est ce que partout, sur notre planète, là où il y a des enfants de Dieu, c'est ce qui monte. C'est un parfum et une supplication. « Seigneur, nous attendons ta venue, nous soupirons. » C'est pas possible que le monde continue comme il est aujourd'hui. Et tout à coup, dans l'interprétation, dans la communication de ce texte, l'ange qui a cet encensoir va précipiter le feu de l'autel sur la terre. Il y a le feu qui va venir sur la terre. Ça augure finalement ce que nous allons voir les fois suivantes, c'est-à-dire, on l'a dit, les trompettes et ensuite les coupes qui vont être déversées. Du silence absolu, on passe à des voix qui s'exclament, des coups de tonnerre retentissants, nous l'avons lu, des éclairs, et un gigantesque tremblement de terre. Notre planète va être ébranlée sur ses bases, en quelque sorte. Et le résultat, c'est tout simplement la somme incalculable de prières et de supplications d'une terre en souffrance qui est entendue dans le ciel. Ainsi, les jugements qui vont frapper sont la réponse de Dieu à l'attente des chrétiens. Ouais. En quelque sorte, ce sont nos prières qui vont déclencher le mécanisme. Ouais, il y a un temps de Dieu, hein. Dieu le sait, il est souverain sur toute chose. Mais c'est parce que justement, c'est un peu l'image de la pauvre veuve qui vient supplier le juge unique. Là, nous avons affaire à un juge qui est parfait, saint et parfait. Mais à un moment donné, il est dit, mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Et vous avez remarqué avec moi, c'est lié aussi au retour de Jésus, puisqu'il nous est dit dans cette petite parabole de l'évangile de Luc, il nous est dit, mais quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Donc tout ça, ça se tient. Hein. C'est cohérent tout ça, il n'y a pas de défaut. Hein. Ce sera donc cette coupe de feu ces tremblements de terre et tout ce qui va venir, ça sera l'explication des sept trompettes et des sept coupes à venir. Et à ce moment-là, nous allons voir, nous allons passer quelques chapitres, nous allons progresser dans tout cela, et à un moment donné, il va y avoir un monde nouveau qui va apparaître. Mais ça sera dans les douleurs de l'enfantement. Oui. Les douleurs de l'enfantement après la grâce, ça sera le jugement qui viendra sur notre misérable humanité en réponse de toutes les plaies, de toutes les souillures, de tous ces gens qui ont fait n'importe quoi et qui ont détruit la création de Dieu. Et de conclure avec les paroles de Jésus sur lesquelles nous allons tout simplement terminer, c'est dans Luc chapitre 21, où il est dit ceci tout simplement. On en a fait le commentaire il y a si peu de temps, je crois que c'était la semaine dernière, dans notre réunion de prière. Et il est dit ceci tout simplement, au verset 27, écoutez bien, parce que ce sera la conclusion de notre méditation et étude ce soir. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. » Ça s'adresse à nous. « Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que sous le soleil en arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et aujourd'hui, ce soir, on était confrontés avec la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne manquera pas de s'accomplir. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. On va tout simplement terminer par une simple prière et on garde ces choses dans notre cœur. Il y a des choses peut-être difficiles à comprendre, mais le Seigneur, en son temps, saura nous donner la réalité de tout cela. En tous les cas, nous voulons lui dire que nous croyons en lui et que nous l'attendons. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que ta parole, c'est vrai, parfois n'est pas toujours très compréhensible ou accessible, Seigneur, à notre humanité, à notre intelligence. Mais Seigneur, tu nous dis ce qui est nécessaire que nous sachions. Tu nous as donné, Seigneur, l'essentiel et le principal pour pouvoir nourrir notre foi sur ce que tu nous as promis, Seigneur. Alors c'est vrai que nous sommes dans un monde qui est tellement mélangé, qui est tellement confus, où tout cela, Seigneur, eh bien, en effet, le bon grain est mélangé avec l'ivraie. Mais Seigneur, tu as prévenu de ne pas toucher ni à l'un à l'autre jusqu'à ce que les moissonneurs viennent et fassent le tri. Alors Seigneur, nous sommes dans l'attente de ton retour. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que nous savons qu'à travers tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera, eh bien Seigneur, tu as mis non pas sur notre front, mais dans notre cœur, le sceau du Dieu vivant. Et notre espérance, notre foi est en toi. Et nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus, notre Sauveur, qui a expié nos péchés et qui nous donne aujourd'hui l'assurance de la vie éternelle. Seigneur, merci, parce que nous sommes vivants, à cause du Dieu vivant. Merci Seigneur. Amen.